c'est pas trop réussi. Il y a quand même des sociétés un petit peu plus matriarcales et où la femme est plus respectée qu'elle ne l'est dans la société de consommation. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Vous lirez par exemple un petit peu la tribuna en Chine, un petit peu comment les femmes, si vous voulez, sont libres, participent à leur monde. Je ne pense pas que les femmes soient à ce niveau de liberté, d'émancipation en Europe aujourd'hui.
Quelle est la question, monsieur ?
Donc la question, oui, bien, comment, si vous voulez, autour d'une même table, les Occidentaux peuvent-ils se mettre à entendre toutes les différentes cultures, et Dieu merci, elles sont encore très nombreuses, c'est-à-dire les cultures dans toutes leurs composantes. Parce que c'est quelque chose d'assez... Moi, j'arrive pas, si vous voulez, à penser la réponse à cette question-là. Comment on peut réunir toutes les cultures du monde? Elles sont pas seulement, si vous voulez, 4 ou 5 grandes cultures, elles sont sans doute des milliers de cultures. Prendre le meilleur de ces cultures et puis essayer d'éradiquer le plus mauvais de ces cultures, comme vous l'avez dit.
Alors, on voit bien que à travers ça, c'est des chantiers considérables et que là, on n'est pas outillé pour le faire, mais c'est autant un échange au sein de toutes les expériences et les compétences qui sont présentes dans cette assemblée qu'un dialogue particulier par rapport à moi et les questions aussi bien que vous posez que celles que vous évoquez à l'instant, ça fait partie justement de ces enjeux démocratiques d'un travail collectif qui se joue aussi bien à l'échelle internationale que sur nos propres territoires. Hein, toutes les questions que vous venez de poser, par exemple, les tas de villes-monde et de quartiers où on peut les poser. Alors, moi, ce que je peux dire comme contribution personnelle à ce débat collectif, d'abord sur la question du radicalisme, c'est que il faut effectivement plus de radicalisme, mais au sens premier du radicalisme, c'est-à-dire de mouvements qui vont à la racine des problèmes. Et pour moi, une des hypothèses, c'est que la racine des problèmes, elle résulte des phénomènes de captation. Hein, quand je reprenais les distinctions grecques, et notamment que la première forme d'amour avant la rencontre de l'altérité, c'était la porneia, elle s'exprime justement par des logiques d'absorption, des logiques de captation. Donc, évidemment, dans l'ordre de la richesse, la forme capitaliste est une forme de captation. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour inscrire des objectifs de transformation, de résistance, de lutte, etc., y compris dans une perspective critique, post-capitaliste, etc., que je distingue de l'économie de marché. Hein, parce que il y a 2 grandes distinctions qu'on oublie trop souvent. L'une qu'on doit à Karl Polanyi dans La Grande Transformation, qui est la distinction entre économie de marché et société de marché. Parce que ce qui est dangereux, c'est la société de marché, c'est-à-dire quand il y a un envahissement d'autres ordres, et notamment le lien politique, le lien de sens, le lien de réciprocité. À ce moment-là, le phénomène de marchandisation conduit à une perte de substance. Donc c'est la société de marché, c'est ce que Joseph Stiglitz appelle le fondamentalisme marchand, qui est le plus dangereux. La vraie économie de marché, c'est une économie qui, par nature, a besoin d'être régulée, parce qu'on ne peut créer du marché que s'il y a déjà de la paix et du droit. Donc au sens précis du terme, pour qu'il y ait économie de marché, il faut qu'il y ait régulation. Là où je vous rejoins dans la critique du capitalisme, c'est que pour moi, le capitalisme, il n'est pas dans une logique d'échange, il est dans une logique de puissance et de domination. Mais c'est important de rétablir ces distinctions parce que si évidemment, quand on met en cause le capitalisme, on a dans la tête que l'alternative au capitalisme, c'est de l'économie bureaucratique administrée, bah évidemment, le contre-témoignage dramatique de ce qu'a été le fait communiste international entraîne ensuite des formes de victoire par défaut du capitalisme. Donc, je pense que du point de vue de la radicalité et en allant à la racine des problèmes, il faut repérer ce qu'est la zone de logique de démesure et de puissance qu'il y a dans le capitalisme et qu'il n'y a pas forcément dans l'économie de marché si elle est régulée, si elle donne pleinement sa place dans le cadre d'une économie plurielle à de l'économie sociale et solidaire, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que justement, dans la radicalité, il ne faut pas seulement mettre en cause les formes de captation dans l'ordre de la richesse, il faut aussi mettre en cause les formes de captation dans l'ordre du pouvoir ou, par exemple, dans l'ordre du sens. Que l'un des grands problèmes des alternatives, par exemple, au capitalisme, c'est qu'elles pouvaient être lucides sur la captation de richesses, mais complètement aveugles sur la captation de pouvoir. L'un des drames du communisme, ça a bien été cela. Bon. Or, la captation de pouvoir, elle produit des phénomènes qui peuvent être au moins aussi graves, voire pires, que la captation de richesses. La captation de sens, qui conduit au fondamentalisme, c'est la même chose. Alors, si on a une vision, à ce moment-là, non radicale, parce que n'allant pas à la racine des problèmes, qui ne voit qu'un des aspects de la captation, eh ben, par exemple, on avait les mouvements anticapitalistes et anti-impérialistes occidentaux qui applaudissaient la révolution de l'ayatollah Khomeini, sans voir venir cette autre énorme captation qui était celle du fondamentalisme. Donc le vrai radicalisme, pour moi, c'est celui qui met en cause toutes les formes de captation et de domination, et pas simplement celle dans l'ordre de la richesse qui est exprimée par le capitalisme. Et alors, ce point-là nous amène à l'autre question qu'évoquait monsieur, qui est que on ne peut faire ce travail-là, qui est fondamentalement le travail dans l'ordre de l'émancipation, que si on considère que le problème, ce n'est pas simplement le problème chez les autres, mais c'est aussi le problème chez soi. Et que c'est vrai aussi bien à titre individuel que sur le plan collectif. La façon de créer un dialogue de civilisation exigeant, il est lié justement à la question de la reconnaissance de la barbarie intérieure. Et la barbarie, elle permet à la fois de dire « je reconnais ma propre part de barbarie, et je suis prêt à accepter de la travailler, mais je suis aussi dans la lucidité, je ne vais pas me mettre à idéaliser parce que j'ai reconnu, par exemple, les méfaits et les défauts de l'Occident, ce n'est pas pour autant que je veux me mettre à oublier les autres formes de captation, de domination, d'exploitation, d'aliénation que d'autres traditions portent. Mais comme je le racontais dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas du tout la même chose, si on a commencé par le travail sur le meilleur. Parce que cette mise en sécurité affective, c'est là que la question de la reconnaissance et du sens, elle est fondamentale. C'est-à-dire, je suis d'autant plus crispé sur mon sens, et mon sens devient d'autant plus vital que j'ai peur de ne pas être reconnu. À partir du moment où je suis mis en sécurité, et ce que je dis là n'est pas vrai simplement dans l'ordre personnel, mais l'est tout à fait dans l'ordre collectif, quand je suis mis comme en sécurité, comme collectivité, sur le fait qu'il y a une part de mon histoire qui est reconnue comme fondamentalement positive par les autres, eh bien, à ce moment-là, je suis en situation de pouvoir faire aussi le tri intérieur. Et ça, ça permet d'être à la fois dans l'ouverture et dans l'exigence. Ça permet de dire, par exemple, oui, la question de l'universel se pose, et ça, c'est une vraie différence avec les postures qui sont sur une espèce d'absolutisation du relativisme culturel. Moi, j'ai une amie chinoise, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur des éléments d'universalité de l'espèce humaine. Et par exemple, ces éléments d'universalité de l'espèce humaine, vous les voyez bien, par exemple, dans les situations de catastrophe comme celle d'Haïti. Hein, c'est-à-dire, quand on voit ce qu'est la détresse, sous les différentes formes de la détresse, on repère des éléments d'universalité dans l'espèce humaine, de la même façon qu'on en repère des éléments d'universalité du côté de la joie, même si ensuite ils vont se décliner sous des formes très différentes. Mais cet universel n'est possible à présenter que si c'est un universel à construire, et non pas un universel à projeter, un universel de domination, ce qui est justement trop souvent la forme occidentale que prend le rapport à l'universel. L'universel, c'est une mosaïque à construire à partir de l'ensemble de la biodiversité des cultures humaines. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas simplement cinq grandes cultures. Il y a cette mosaïque à construire. C'est comme un mandala, si vous voulez. Mais nous ne pouvons tendre vers le meilleur de l'humanité qu'en faisant ce tri sur la part d'humanité, et que si l'exigence de l'universel n'est pas présentée comme une posture a priori dominante et surplombante, mais comme étant un travail commun, un chantier commun de l'humanité dans son rendez-vous avec elle-même. Et ça, c'est une perspective qui est, à mon avis, tout à fait acceptable par l'ensemble des peuples, par l'ensemble des cultures, parce que dès qu'on parle vraiment avec les uns et les autres, tous reconnaissent que leur part de barbarie intérieure est présente. L'opération « les barbares chez les autres » est une opération qui est d'abord une opération de protection et qui devient ensuite une opération de domination. Vous savez, la fameuse phrase, Jean-Paul II l'a repris de l'Évangile, mais elle peut être exprimée là encore sous des tas de formes de tradition, de sagesse et de spiritualité, c'est la question de la peur. N'ayons pas peur. Et sortir des logiques de peur, c'est un élément clé pour aller vers la radicalité que vous appelez de vos voeux. Parce que très souvent, quand on gratte derrière les formes de domination, on trouve de la peur. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des formes de domination qui seraient intrinsèques et autonomes et dont il faut aussi s'occuper. Mais celle-là, c'est presque plus simple. C'est de la lutte d'émancipation, de résistance, de libération classique. Mais là où la domination est plus difficile à traiter, c'est quand la domination est elle-même liée à de la peur. Et à ce moment-là, il faut aller aussi travailler sur cette peur-là si on veut sortir des logiques de domination.
Oui, merci. Vous avez évoqué les villes-mondes, vous avez évoqué le mur que l'Inde a bâti pour être séparée des migrés climatiques qui risquent d'arriver à terme du Bangladesh. Vous avez parlé de changement d'air à IRE, mais vous avez peu développé sur ce thème et sur le thème des territoires et de la perte des références oui. territoriales. Mmh. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus ?
Oui, bah d'ailleurs, au passage, vous voyez, à la fois, j'ai pris trop de temps et en même temps, il y a quantité d'aspects que j'ai insuffisamment développés. La question des territoires, elle est essentielle parce que dans les stratégies de transformation positive, c'est toute la question des transitions et notamment des territoires et des villes en transition. Parce que quand on est confronté à des défis de ce type, il faut avoir un trépied qui est au cœur, par exemple, de l'histoire de l'économie sociale et solidaire, mais qu'on peut appliquer plus largement et notamment au territoire. Et ce trépied, c'est celui de la résistance créatrice contre l'inacceptable. Ça renvoie à la question que vous évoquiez de la radicalité. Deux projets transformateurs positif, on ne se contente pas d'être en lutte, en résistant, etc. On montre qu'une autre voie, qu'un autre monde est possible. Et entre les deux, vous avez un élément absolument fondamental qui est celui de l'expérimentation, de l'auto-organisation, de l'autogestion, si on veut employer un terme qui est aujourd'hui passé de mode, et qui consiste à dire nous n'attendons pas les transformations global pour lequel, par ailleurs, nous œuvrons, nous auto-organisons pour aller le plus loin possible pour les mettre nous-mêmes en œuvre. Et ça, par exemple, dans le mouvement des villes en transition, mais il n'y a pas de raison que ça soit simplement des villes, ça peut être plus largement des territoires, c'est aussi une façon d'avancer. C'est-à-dire de dire, bon ben, nous savons bien que le pic pétrolier, il est devant nous, et plutôt que d'attendre justement la catastrophe, nous allons anticiper d'autres modes qui sont plus fondés sur le tout pétrole. Nous savons bien que si nous voulons traiter les problèmes du climat, il faut changer nos modes de consommation, de distribution. Bon, on œuvre pour des transformations dans ce sens. On lutte contre ce qui nous paraît inacceptable dans la logique.